Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Quand donner une interview est synonyme de sortir de sa zone de confort, eh bien c'est exactement ce que va vivre avec moi ma femme d'aujourd'hui. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Mona Noor, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui.
C'est un véritable honneur. Merci à toi Yasmine.
Merci beaucoup. Et justement, on va aller à la découverte pas de la carrière, mais de la femme multiple, de la personne multiple et ô combien tu l'es justement derrière le nom. Alors d'abord, tu es fondatrice d'un cabinet spécialisé dans la structuration et la production de l'expérience client dans les secteurs touristiques et hôteliers. Tu as un parcours véritablement hybride entre théâtre, hôtellerie et design spatial, avec une approche centrée sur la compréhension des perceptions, des émotions et des systèmes qui structurent l'expérience. Et aujourd'hui, tu as développé également un écosystème dédié à la conception d'expériences enfants et familles dans l'hospitalité. Waouh ! C'est tout ce que je peux dire pour démarrer, justement. Alors, ce parcours hybride, d'abord, entre le théâtre, l'hôtellerie et le design spatial. Qu'est-ce qui s'est passé, Mona, quand tu as décroché ton bac ?
Eh bien, ça n'a jamais été un parcours linéaire et il faut dire que tout a commencé depuis ma plus tendre enfance. Je pense que c'est souvent là que prennent naissance les cadres fondateurs de qui on devient à l'âge adulte. Et je me souviens de cette phrase, j'avais 8 ou 9 ans et le directeur de mon école à l'époque avait prononcé une phrase qui a fait écho pendant des années qui était « tu es intelligente mais tu ne rentres dans aucune case ».
Waouh.
Et en fait, pendant des années, j'ai porté cette phrase comme une blessure, comme un rejet. Et ça n'est qu'après un long cheminement que je me suis rendu compte que finalement, c'était la meilleure description qu'on ait faite de moi et que cette sensibilité très marquée au ressenti que j'ai toujours portée en moi et cette relation profonde à la foi également. J'ai toujours eu depuis petite une confiance intime en Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a toujours guidée, même dans des moments où, pendant longtemps d'ailleurs, je ne comprenais pas comment est-ce que ces moments de doute allaient finalement faire sens. Et pendant que je les traversais, en tout cas, je ne savais pas dans quelle direction ils allaient.
Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cette fameuse journée, en fait, ce moment où tu as entendu cette phrase, où ce directeur d'établissement te dit cette phrase, tu es intelligente mais tu ne rentres dans aucune case, et déjà tu dis à 8 ans, c'est la phrase, j'ai l'impression que c'est la phrase finalement qui t'a le plus marqué. Comment l'enfant de 8 ans a vécu ça? Et pourquoi je te propose de nous arrêter sur ce détail en particulier? Parce que, en tant que parent, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout ce qui est éducation positive, etc. Mais personne n'est parfait, on n'est pas des parents parfaits, on n'arrive pas avec un manuel parfait, les encadrants, les enseignants non plus. Et on ne se rend pas compte de l'impact de certains mots sur les enfants. Et toi, tu es vraiment ce cas pratique.
Oui, ça a eu un très grand impact. Et puis,
ça voulait dire quoi pour toi, en fait ? Tu as plutôt gardé, tu ne rentres dans aucune case, mais au lieu de garder intelligente.
C'était encore plus ironique que ça, parce que c'était après un conseil de classe, et la phrase était même prononcée à la troisième personne. Il s'adressait à ma mère et disait « Mouna est intelligente, mais elle ne rentre dans aucune case ». Donc, tu vois, c'était même reçu de manière passive. Et je l'ai vécu avec une extrême violence parce que pour moi, c'était du rejet dans sa forme la plus pure. Et ça n'est que, allez, peut-être à l'aube des trentaines que je l'ai transformé en force.
Incroyable.
Pas tout de suite.
Ouais.
Pendant très longtemps, j'ai juste calqué mon comportement sur finalement cette définition qu'on avait érigé de moi en me disant « Ok, alors je n'ai pas besoin de faire d'efforts pour ressembler aux autres parce que de toute manière, on ne m'acceptera pas.
» C'était conscient ou inconscient, la démarche?
Inconscient.
Inconscient.
Je dirais que c'était inconscient, oui.
Okay.
Parce qu'à cet âge-là, on n'a pas vraiment le recul nécessaire, ni les outils d'ailleurs, pour pouvoir réellement se rendre compte que une parole extérieure à soi n'est pas fondatrice de qui nous sommes réellement.
Alors, justement, donc, le théâtre, tu le découvres à quel moment de ta vie ?
Début vingtaine, à Paris. C'était une sorte d'exutoire pour moi. C'était une manière de reprendre le contrôle des choses. Et de toute manière, j'ai toujours eu un tempérament très intense. Et je pense que même dans la culture commune, nous, les scorpions, on nous associe à l'intensité, au trop. Et cette intensité, elle m'a fait peur pendant longtemps. Parce qu'on me qualifiait toujours de quelqu'un qui était dans l'excès, l'excès d'émotion, l'excès de ressenti, l'excès d'amour aussi. J'ai toujours beaucoup donné autour de moi. Et c'est cette nature engagée et entière, je ne sais pas faire les choses à moitié. C'est des choses que je rejetais, ou en tout cas sur lesquelles je me culpabilisais, plus que de le considérer comme un véritable don de la nature, un véritable don d'Allah.
Cette foi profonde, justement, elle est arrivée à quel moment ?
Très jeune, à 7-8 ans. J'avais déjà conscience de la présence d'Allah. Et même si j'ai grandi dans un milieu complètement francophone, je voulais apprendre à lire pour pouvoir lire le Coran, parce que j'étais persuadée qu'on ne pouvait communiquer avec Allah qu'en arabe. Et je m'efforçais, je demandais à ma mère de manière régulière de m'apprendre à lire l'arabe, juste pour ça. Ouais. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que ma fille Mia a pleinement hérité de cette nature, puisqu'elle a 4 ans aujourd'hui, et elle parle d'Allah tous les jours, et elle fait preuve d'une très grande sensibilité au divin, et c'est quelque chose que j'observe avec beaucoup de douceur et qui me touche énormément.
Ouais. Alors aujourd'hui, Mouna, justement, moi je ressens une femme plus apaisée et plus proche de son enfant intérieur. Je ne suis pas thérapeute, bien sûr, mais je te parle vraiment de ce que je suis en train de ressentir à travers ton timbre de voix et ce qu'on a dit. Mais je ressens aussi, j'ai aussi cette impression, j'ai ce ressenti que pendant longtemps, tu pensais que tu n'étais pas assez.
Oui, tu as raison et ta lecture est parfaitement juste. Et ça n'est que à 30 ans, d'ailleurs, que j'ai enfin réalisé que j'avais le droit d'exister, de briller et d'être qui je suis, sans avoir besoin de correspondre à des normes qui avaient été instaurées par un système auquel, finalement, je n'avais même plus envie d'appartenir. Tu vois ?
Est-ce qu'à un moment, tu t'es sentie dans ce qu'on appelle l'échec scolaire ?
Complètement. À 2000%. Ça ne fait aucun doute. Et j'ai toujours été définie comme une enfant en échec scolaire. Et finalement, cette case, cette étiquette plutôt, je l'ai acceptée. Et j'en ai fait un peu un leitmotiv. Je me suis dit, OK, de toute manière, si tout le monde dit que je ne suis bonne à rien, c'est que finalement, ils ont peut-être raison.
Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est l'extérieur, en fait, de ton cocon familial qui t'a posé cette étiquette. À la maison, tu l'as dit tout à l'heure, l'ambiance était différente. En fait, pourquoi je pousse la réflexion ? Parce que moi-même, en tant que mère, je me dis, est-ce que l'amour, l'affection, l'attention que je donne à mes enfants à la maison les protège des dérives de ce qu'elles peuvent entendre, de ce qu'on peut leur dire à l'extérieur ?
Écoute, sincèrement, je pense que c'est un peu une boucle qui se crée. Et malheureusement, dans le système scolaire, l'enfant est souvent considéré comme un dossier qui passe de main en main et d'année en année. Et ce qui est inscrit dans ce dossier finit par être la traduction de qui il est, en tout cas, ce qu'il représente comme dans ce système éducatif. Et donc, il suffit d'une mauvaise lecture, d'une mauvaise compréhension des besoins réels de l'enfant pour que ça devienne tout un cheminement qui soit tracé autour de cette pensée.
Ouais. Oui, parce que moi aussi, je suis en plein dedans, en fait, avec mon aînée. Et bon, elle a subi pas mal de harcèlement au lycée. Et donc, je me dis, est-ce que moi, à la maison, je peux contrebalancer tout ça? Et en fait, elle-même, elle me disait dernièrement, non, ça m'aide, mais tu ne peux pas faire plus.
C'est très touchant. Et je pense que l'amour inconditionnel de la maman est essentiel pour que l'enfant ait au moins un cadre dans lequel il se retrouve et dans lequel il est accepté tel qu'il est.
Tel qu'il est, ouais.
Sans avoir besoin de performer, sans avoir besoin de toujours être dans l'excellence. Et à la fois, ça n'est pas suffisant parce qu'on sait, tu es maman et je le suis aussi, nos enfants sont confrontés au monde extérieur et on ne peut rien échanger. Et même si c'est difficile en tant que maman d'accepter que nos enfants subiront très probablement des blessures et des fractures dues au système, ces fractures sont fondatrices et ils doivent inévitablement passer par là pour
se construire
l'adulte qu'ils seront, Inch'Allah, dans le futur.
Oui, complètement. Alors, justement, le point de changement, tu parles beaucoup de 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 30 ans? Est-ce que c'est la maternité qui t'a transformée?
Alors, la maternité, moi, je l'ai connue assez tôt, avec la naissance de mon fils, Adam. Il est né en 2015, j'avais 22 ans à l'époque.
Ok.
Et ça a été vécu au début comme une fissure intérieure. Pas dans l'amour que je lui portais, parce que cet amour a été immédiat et absolu, mais dans l'image que j'avais de ma propre trajectoire. C'est comme si les choses avaient tragiquement changé à tout jamais, que je ne pouvais plus réaliser tout ce que je voulais parce que maintenant, je devais m'occuper de mon bébé.
Tu n'es pas seule, tu sais, Mona, tu n'es pas seule dans ce ressenti. C'est incroyable parce que ça résonne beaucoup en moi ce que tu dis aussi. J'ai énormément vécu ça avec l'arrivée de mon aîné. Pourtant, je n'étais pas aussi jeune que toi, j'avais 29 ans. Mais le poids de la responsabilité, indépendamment bien sûr de l'affection, etc., que j'avais pour ce bébé, mais le poids de la responsabilité, moi, je l'ai vécu comme... voilà, ma vie ne sera plus jamais comme avant. Parce que je dois m'occuper de quelqu'un.
Oui, oui. C'est une responsabilité qui nous prend comme presque comme un coup qu'on reçoit, parce que on se dit tous mes rêves sont un peu avortés.
Oui.
Dès lors, je ne pourrai plus aller m'installer à l'autre bout du monde. Je ne pourrai plus réaliser tout ce que j'avais envie de réaliser jusque là.
Oui.
Et c'est que avec le recul que cette expérience s'est révélée en réalité comme une bénédiction. Et ce ralentissement dans ma trajectoire était en fait nécessaire parce que j'étais dans une dynamique de précipitation constante. J'étais quelqu'un qui vivait intensément, qui changer très souvent de cursus scolaire, de lieu de vie. J'étais un peu perdue entre toutes mes envies. Et c'est que plus tard que j'ai compris encore une fois cette main d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est venue me guider et assagir ma trajectoire, je dirais.
Oui. Et en fait, tu as pris la décision très tôt de t'engager avec quelqu'un, de te marier?
Oui, mais ce n'était pas prévu qu'il y ait un enfant aussitôt.
Aussitôt,
oui. Oui, ce n'était pas du tout prévu et je pense que de toute manière, à cet âge-là, je ne prenais aucune décision concernant.
Oui, je comprends.
Ni celle de m'engager dans une relation, ni celle d'avoir un enfant. C'était juste des choses qui arrivaient sur ma trajectoire.
Ouais.
Et finalement, cette adrénaline que ça a apporté, me suffisait pour me dire, bah, c'est certainement comme ça que c'est censé se passer.
Ouais.
Je ne réfléchissais pas les décisions.
Ouais. Tu as l'impression qu'en fait, pendant très longtemps, tu avançais dans la vie. Tu n'avais aucun contrôle, aucune décision réfléchie. Juste, tu avançais.
Oui, j'avançais, je prenais ce qui venait sur mon chemin,
ouais,
finalement.
Ouais, ouais, ouais. Ça fait complètement écho, c'est fou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à 30 ans, justement ?
Alors, à 30 ans, en 2021, la naissance de ma fille Mia.
OK.
Et là, ça a été un véritable point de bascule. Pendant ma grossesse, j'ai entamé un travail de réconciliation avec moi-même. Parce que justement, je revoyais le moment où j'attendais l'arrivée de mon fils Adam et j'ai mis un point d'honneur à ne pas reproduire cette même arrivée dans la précipitation où je ne savais pas vraiment où je mettais les pieds. Donc ces 9 mois ont été un moment de travail intérieur et d'introspection pendant lesquels j'ai quitté mon ex-mari pendant la grossesse.
Okay.
Et
donc tu l'as vécu toute seule en fait, cette grossesse.
Oui, et j'en avais besoin de vivre seule, moi et mon enfant. C'est un moment que je n'aurais jamais imaginé. Je n'aurais pas en tout cas imaginé qu'il arriverait à ce moment-là. Mais tu sais, c'était un peu comme une sorte de chrysalidation. C'est un peu comme la chenille qui se transforme à l'intérieur du cocon sans que personne ne s'en aperçoive et sans que personne à l'extérieur ne comprenne pourquoi je prenais ces décisions-là. Et je me suis mise face à un miroir et j'ai enfin remis en question la manière dont je traitais mon enfant. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je donnais comme image à mes enfants et à moi-même ? Pourquoi est-ce que j'étais aussi sévère envers moi-même ? Et j'ai réalisé au fil des mois et au fil des heures passées seule à réfléchir à quel point les pensées limitantes peuvent orienter et restreindre une trajectoire de vie.
Et tout ça, en fait, ça s'est déclenché, enfin, tout seul, non, mais le travail, tu as décidé de l'entamer seul. C'est en refus de revivre la maternité telle que tu l'as vécue la première fois.
Complètement. Complètement. Et il m'a fallu longtemps pour, déjà pour prendre conscience de la manière dont je m'étais bridée pendant toutes ces années et ensuite d'apprendre à m'aimer et à me connaître. Et avec le recul, je pense que j'ai souvent beaucoup aimé les autres pour éviter de me regarder en face et de tourner mon énergie et mon regard vers moi-même.
Alors,
et ça a été l'un des plus grands défis d'ailleurs.
Justement, vivre une grossesse en même temps qu'un divorce, en soi, c'est un très grand défi. En plus de ça, revivre une remise en question, ça c'est... Je veux dire...
C'est pour ça que...
C'est un feu d'artifice émotionnel.
Je considère que c'était vraiment une année charnière pour moi. C'était vraiment un moment de bascule. Pas le divorce en soi. C'était ma décision, elle s'est prise très rapidement parce que simplement j'avais besoin de me retrouver seule. Et ça n'a jamais été quelque chose que j'ai regretté par la suite parce que j'avais besoin enfin de briller. Et quand j'utilise le mot chrysalisation, c'est le mot le plus juste qui puisse exister à ce moment-là. C'est vraiment la chenille qui se transforme. J'avais besoin d'être qui j'avais envie d'être. Sans qu'il n'y ait personne pour venir se mettre en barrage de cette transformation.
Et c'est ce qui a entamé aussi la transformation professionnelle, l'innovation dans ton métier ?
Absolument. Dans la même année et dans la foulée, déjà le premier défi, ça s'est fait de manière assez verticale. Le premier défi, c'était l'acceptation de mon nom. Ensuite, j'ai commencé une thérapie d'ailleurs à ce moment-là avec un psychologue absolument extraordinaire. Ça a été d'apprendre à aimer la petite fille qui était Mouna. Et ensuite, de légitimer mon droit à être écoutée, à recevoir, et non plus juste à donner. Et mon droit à être aussi intense que je puisse être et aussi émotionnellement connectée que j'avais envie de l'être.
Et ça, ça a apaisé peut-être aussi ta relation avec ta famille proche ? Ça a apaisé davantage peut-être ta relation avec ta maman ?
J'ai toujours eu une relation extrêmement fusionnelle avec ma mère et ma sœur. On a toujours été un trio extrêmement proche et c'est un soutien inconditionnel que j'ai toujours reçu de la part de ma famille proche. Donc, il n'y avait pas réellement d'impact là-dessus. C'était surtout vis-à-vis de moi-même. Et mon rapport à mes enfants plus tard.
Oui.
Parce que j'avais envie de leur offrir le meilleur. Ou tout du moins, je me suis toujours fixée comme barème au moins autant d'amour et d'implication que ma maman nous a offert à ma sœur et moi.
Alors aujourd'hui, comment ça va ?
Ça a été un moment fondateur et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que j'ai compris que réussir impliquait de déconstruire tout ce schmilblick et toutes ces pensées, toutes ces croyances que j'avais construites pendant près de 30 ans et me rendre compte que ce que je redoutais au fond, c'était le succès, la réussite. Et que j'avais besoin de passer par cette phase de transformation pour enfin pouvoir porter un regard différent sur mon parcours et de ne plus essayer de corriger qui je suis, mais simplement de comprendre, d'assumer ma personne. Et de cette période d'introspection où j'ai décidé finalement de prendre tous les ingrédients que j'avais dans mon placard intérieur, tu vois, et de préparer une recette qui était simplement moi.
La tienne.
De ne plus en fait regarder des livres de recettes et de me dire bon voilà ce que je dois acheter pour pouvoir la préparer, mais de dire voilà ce que moi j'ai à l'intérieur. Voilà quels sont les outils desquels je dispose aujourd'hui. Et ça s'est d'ailleurs très vite traduit par des décisions professionnelles qui ont été impactantes pour la suite, puisque quelques mois après la naissance de Mia, je me suis installée à Dubaï, j'ai créé mon entreprise. Et finalement, en fait, cette phase un peu plus sombre, un peu plus de retrait, était nécessaire pour pouvoir briller à nouveau.
Eh bien, quel plaisir de découvrir justement cette femme épanouie aujourd'hui, Mouna Nour. Vraiment, c'est sur cette note-là qu'on va se quitter. Savoir que tu es apaisée, une femme entrepreneur, une maman, une femme beaucoup plus sereine, beaucoup plus proche d'elle-même, beaucoup plus confiante de ce qu'elle est et de ce que l'avenir lui réserve.
Mais merci à toi, Yasmine, parce que à travers ce podcast, tu m'as aidé à relever un véritable défi qui, il y a quelques années en arrière, aurait été complètement impossible pour moi. Celui d'accepter que quelqu'un écoute ma trajectoire et de m'ouvrir émotionnellement. Et même en me disant que très certainement des centaines de personnes écouteront cet épisode, et je n'ai plus peur d'assumer devant les autres. Donc merci à toi de m'aider encore une fois à confirmer ce que j'ai construit durant ces dernières années.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.